plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Plan large, l'encyclopédie vivante du cinéma. Aujourd'hui, c'est comme Cimino, Michael Cimino, une élégie américaine avec Cédric Donna et Fernando Ganzo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. Le canardeur m'a valu d'être traité de misogyne, aimait raconter Michael Cimino en interview. Avec Voyage au bout de l'enfer, je me suis taillé une réputation de facho. Avec La porte du paradis, je suis devenu marxiste. L'année du dragon sort et me voilà raciste. Aucun cinéaste n'a été attaqué aussi violemment que moi, à part D.W. Griffith et Orson Welles. Comme eux, j'ai voulu raconter une histoire de l'Amérique, une histoire vraie. Et de fait, avec seulement 7 longs métrages en 22 ans, d'une carrière météorique et maudite qui le vit passer coup sur coup de roi à paria d'Hollywood, c'est bien rien moins qu'une contre-histoire de l'Amérique qu'a proposé Michael Cimino, une vaste entreprise de déconstruction du grand roman national qui n'a eu de cesse, depuis les origines des migrations qui l'ont peuplé jusqu'à la grande normalisation mondialiste et néolibérale, de traquer les origines de ce qui n'a pas marché, de ce qui a fait que l'Amérique, ce pays qui n'est finalement que 2 fois plus vieux que le cinéma, n'a pas pu remplir les promesses du rêve qu'elle a vendu. Faire des films, écrivait encore dans son autobiographie Conversation en miroir, le cinéaste mélancolique de la perte et de la déréliction qu'était Michael Cimino, s'est inventé une nostalgie pour un passé qui n'a jamais existé. Car, comme le disait Mickey Rourke dans la peau de Stanley White dans L'année du dragon, on oublie tout, personne ne se souvient de rien dans ce pays. Un qui n'a rien oublié du cinéma de Michael Cimino pour lui avoir consacré de nombreuses années d'études, une thèse, la première consacrée à l'œuvre du cinéaste disparu en juillet 2016, et un livre, Le cinéma de Michael Cimino, L'Amérique, un rêve évanoui, analyse minutieuse de l'œuvre parue l'an dernier, c'est Cédric Donna qui, à Grenoble, enseigne le cinéma à l'université et l'histoire et la géographie au lycée et est notre invité aujourd'hui dans Plan Large. Face à lui, Fernando Ganzo, le rédacteur en chef de notre partenaire Sofilm, qui, en fin d'émission, nous parlera de la grande Delphine Seyrig, à l'affiche la semaine prochaine en salle, des Lèvres Rouges d'Harry Kummel. Mais pour l'heure, direction le Midwest américain, ses champs de blé, ses petites églises de campagne et ses drôles de pasteurs.
I thought you were the heat.
Do I look like heat?
You look like one crazy son of a bitch for a preacher, I'll tell you that. Who's that guy back there in the wheat?
Old friend.
Friends like that, you don't need enemies.
Which way are we headed?
We?
All right, which way are you headed?
South.
South's all right for me.
You must like my driving.
Oh, I love it. Ever thought of doing it professionally?
What?
Driving.
Why?
You got blue eyes. All great race champions have blue eyes, that's a fact.
All preachers drink like fish, that's another fact.
What's your name, boy?
Lightfoot.
You Indian?
Nope, just American.
If I knew the way, I'd go back. Première rencontre façon rodéo automobile des deux anti-héros qui donnent le titre américain du canardeur en 1974, Thunderbolt and Lightfoot, soit coup de tonnerre et pied de biche. Quel est ton nom? Demande Clint Eastwood. Lightfoot, tu es indien? Et non, bon américain, lui répond Jeff Bridges. On est à 8 minutes du début du film et dès les premiers pas de Michael Cimino comme cinéaste pour ce film qui est produit par Clint Eastwood après que le jeune scénariste de Magnum Force, le deuxième volet des aventures de l'inspecteur Harry, a réussi à le convaincre de le laisser passer derrière la caméra. Dès les 8 minutes, donc, se pose la question de ce que c'est qu'être américain. Cédric Donna, grande question chez Michael Cimino.
Oui, grande question en effet. Excusez-moi, je profite simplement de votre invitation. Je vous remercie bien entendu. Je voudrais juste rectifier une toute petite chose. Il y a eu une première thèse consacrée à Michael Cimino. Elle est l'œuvre de Pierre-Simon Gutmann, qui travaille notamment pour l'avant-scène cinéma. Je ne connaissais pas cette thèse, je n'ai pas eu l'occasion de la consulter. Donc voilà, je voudrais quand même rendre à César ce qui appartient à César. Il est bien l'auteur de la première thèse sur Cimino en
D'accord.
France.
Rectificatif donc sur la deuxième page de votre
tout
livre.
Fait, tout à fait. Alors effectivement, donc cet extrait nous introduit d'emblée dans l'œuvre du cinéaste. Cette question en fait de l'identité, elle va être le véritable fil rouge de la filmographie, et notamment effectivement des trois œuvres majeures qui constituent un triptyque sur une sorte de contre-histoire de l'Amérique. D'ailleurs, cet échange sur le patronyme Lightfoot, en fait, on va le retrouver dans The Deer Hunter, quand Nick...
Voyage au bout de l'enfer.
Voyage au bout de l'enfer, effectivement, son interlocuteur dans l'hôpital militaire de Saigon va lui faire un peu la même réponse au moment où il décline son identité, donc d'origine, un patronyme d'origine russe, et il fera la même réponse, non, c'est américain. Nous sommes effectivement donc dans le Montana. Cimino voulait d'emblée en fait dépayser le spectateur, lui proposer des paysages qui, selon lui, n'ont pas été suffisamment montrés au cinéma. Donc il
c'est même un credo pour lui. Hein. Quand je filme un paysage, il faut qu'aucun cinéaste ne soit passé par là avant moi.
Voilà, effectivement, à la sortie de Desperate Hours, le film de 90, il donnera un entretien au Cahier du cinéma qui sera titré « Je n'irai jamais à Monument Valley ». Alors peut-être qu'on en reparlera, parce qu'il se trouve qu'en fait il est allé à Monument Valley dans Sunchaser, mais effectivement là il est au début de sa carrière, donc vous l'avez dit, effectivement c'est sa rencontre avec Eastwood qui va lui permettre de passer à la réalisation après deux co-écritures de scénarios. Il a toujours, Cimino, défendu l'idée qu'il était arrivé au cinéma par hasard. Il a suivi aucune formation particulière. Alors peut-être pour la petite anecdote, en fait, le premier passage en fait de Cimino derrière la caméra, c'était pour la publicité, et notamment pour une publicité de United Airlines qu'on peut encore voir sur YouTube. Alors c'est une anecdote qui n'explique pas en soi grand chose sur sa filmographie, mais on retrouve déjà en fait dans cette publicité d'une minute trente un goût très prononcé pour la danse. Un thème qu'il va avoir l'occasion de travailler. Et cette publicité, en fait, elle a été aussi l'occasion d'une polémique quand, en 80, le film Heaven's Gate va être accusé, en fait, d'avoir coulé United Artists. Il y aura un documentaire de Michael Epstein qui va reprendre, en fait, le propos de Final Cut, le livre de Stephen Back, qui est vraiment un livre à charge sur Michael Cimino. Et dans ce documentaire, Epstein dira que les dirigeants de United Artists auraient mieux fait de s'intéresser finalement à cette publicité très courte pour United Airlines, parce que il se trouve que dans cette publicité, en fait, Cimino met en scène donc une offre publicitaire, donc bien entendu de la compagnie aérienne, qui consistait à proposer en fait aux hommes d'affaires qui emmèneraient leurs femmes avec eux. Donc on est évidemment à l'époque où l'avion est encore, même aux États-Unis, réservé à une classe sociale qui est quand même clairement segmentée, avec donc l'idée d'offrir un billet à demi-tarif pour les hommes d'affaires qui emmèneraient leurs femmes. Le slogan, c'était « Take me along ». Et donc, en fait, la campagne a énormément de succès. Sauf que dans les semaines qui suivent, en fait, United Airlines croule sous les lettres de femmes, à tel point qu'ils sont obligés d'embaucher des secrétaires, puis plus tard des avocats, de femmes donc qui ne comprennent pas pourquoi elles ont reçu à leur domicile un message de remerciement de l'entreprise pour avoir voyagé sur leur ligne. Et donc Epstein utilise cette anecdote pour indiquer que finalement Cimino a presque coulé deux United. Donc effectivement, comme vous l'avez rappelé, d'emblée en fait sa carrière est en dissonance vis-à-vis de l'industrie hollywoodienne.
I love you, baby, and if it's quite all Marry this girl, you leave her with me, and you go with these bums to the Vietnam.
One flight upstairs. When I come home,
Pershivik.
One flight.
Negodiai.
I love Angela, and she loves me.
Wear a scarf today.
You don't wear a scarf with a tuxedo. I'm not going to wear a scarf with a tuxedo.
Durak!
On a beau se faire traiter de durak, d'imbécile en russe, donc on est bien dans un bar d'une petite cité sidérurgique de Pennsylvanie, une bande de copains d'origine ukrainienne ou russe, hein, on ne sait pas trop, en tout cas tous issus d'une classe ouvrière, comme sortie d'une chanson de Bruce Springsteen, bois, joue au billard avant le mariage d'un d'entre eux et son départ avec deux autres au Vietnam. C'est évidemment Voyage au bout de l'enfer de Deer Hunter, premier chef-d'œuvre salué par 5 Oscars, tout de même un jeune réalisateur qui n'a alors pas 40 ans, on est en 1978. Alors, on serait bien en peine, dans le temps de cette émission, d'épuiser toutes les dimensions de cette œuvre, je vous cite, Cédric Donna, foisonnante, déroutante, difficile. Les pistes proposées, c'est ce que vous écrivez, sont des continents. Alors, l'immigration, l'aliénation, la culture ouvrière, le patriotisme, l'attente, la guerre, le retour. Enfin, il y a un nombre de dimensions incroyables dans ce film, sans oublier évidemment l'omniprésent sous-texte homosexuel. Mais alors, comme vous aimez souligner, Cédric Donna, l'importance des séquences d'ouverture chez Cimino, cette façon dès l'incipit de donner le sujet du film. Pour vous, le film parle avant tout d'un camion, c'est le début du film, qui fait irruption dans une bourgade industrieuse de Pennsylvanie aux premières heures du matin, au moment où l'équipe de nuit s'apprête à quitter son poste, c'est-à-dire, et je vous cite encore une fois, une machine qui porte le fer et le feu au sein des communautés humaines.
Oui, en effet, je défends l'idée dans ce livre selon laquelle le film, en fait, jette des ponts, tisse des liens et montre que le Vietnam n'est pas, en fait, une entité étrangère et que c'est simplement, en fait, effectivement, une accélération de l'histoire, en fait, que réalise ce conflit et notamment une déréliction, en fait, de la culture ouvrière. Mais effectivement, dès les plans introductifs, on a cette image effectivement de la machine, du complexe militaro-industriel, cette gigantesque usine de l'US Steel, hein, que Cimino est allé tourner dans l'Ohio. Alors en fait, à ce moment-là, en fait, l'usine était déjà à l'arrêt et il a fallu rallumer les forges de Clairton pour les biens du film. Donc on a un monde effectivement qui est en passe de disparaître et puis qui effectivement forge en dernière analyse les armes en fait qui seront utilisées au Vietnam et y compris qui tueront les rejetons de la classe ouvrière américaine. Effectivement dans les premières images du film on a ce camion qui pénètre dans Clairton par un tunnel et puis qui projette en fait des gerbes de feu. Qui permet en fait le raccord avec le plan suivant où on est dans l'antre de l'US Steel avec donc les premières images des protagonistes qui sont des ouvriers sidérurgiques et qui vont partir au Vietnam. Enfin, certains partent, d'autres restent, mais tous au final seront impactés et verront leur existence anéantie par le passage du Vietnam.
Le cinéma de Michael Cimino fonctionne donc beaucoup sur ses introductions mais aussi sur des répétitions, c'est ce qui est très passionnant chez lui. Et le motif qu'on retrouve et qui fait même l'affiche du film, enfin qui est la scène dont tout le monde se souvient quand on a vu Voyage au bout de l'enfer, c'est cette scène de roulette russe avec la torture qui est infligée aux prisonniers au Vietnam. Sauf que vous montrez précisément que cette séquence revenant par 4 fois dans le film, elle est beaucoup plus complexe que ce qu'on a voulu en retenir, juste une illustration de la cruauté à la fois des tortionnaires nord-vietnamiens et du cinéaste lui-même.
Oui, en effet, souvent, le film lui-même est ramené à cette séquence effectivement horrifique dans la geôle surpilotée du Viet Cong. Mais on oublie assez vite que, en réalité, ce motif revient, comme vous le disiez, dans le film, y compris en Amérique, hein, puisque Stanley, donc John Cazale, et donc c'est le dernier rôle, manque de mourir par ce biais-là. Et donc, c'était une manière pour Cimino, effectivement, de métaphoriser un certain nombre de phénomènes. Et effectivement, la première apparition de ce motif, clairement, lui sert, en fait, de mise en forme dramatique de l'idée même de guerre. Puisqu'effectivement, la guerre consiste quand même essentiellement en une attente insupportable d'un dénouement tragique ou pas. Et effectivement, comment mieux que cela, en fait, donner une forme visuelle à cette angoisse de la guerre. La roulette russe lui permet comme ça, en quelques images, de résumer cette idée. Mais ensuite, effectivement, elle prend en charge d'autres motifs. Et notamment, il est tout à fait capital de noter que c'est ce qui reste à Saigon quand, parce que le film alterne en fait les blocs narratifs entre Clairton et le Vietnam, et quand Mike revient à Saigon dans l'espoir de sauver encore Nick, eh bien il le retrouve effectivement joueur professionnel de roulette russe. Le Vietnam est à feu et à sang, Saigon et les gens quittent la ville, le chaos semble avoir totalement pris. Voilà, il ne reste à peu près rien debout, sauf un entrepôt où ça donne pour de l'argent. Des joueurs évidemment désespérés, mais qui sont finalement managés comme des joueurs professionnels par des coachs qui maîtrisent parfaitement l'anglais. Et puis on retrouve, c'est une image extrêmement troublante du film, hein, c'est qu'on retrouve dans ces entrepôts des empilements comme ça de cartons contenant des produits manufacturés qui sont exactement en fait similaires à des vues qu'on a dans la fête du mariage se déroule dans une salle des fêtes de Clairton, enfin tournée en fait à Cleveland, mais on a exactement les mêmes images. Donc là, c'est encore une fois une manière de montrer que la logique impériale qui s'est imposée au Vietnam, elle a une origine, et que cette origine, c'est le cœur du système américain.
Écoutez France Culture, plan large sur Michael Cimino avec Cédric Donat et Fernando Ganzo. Et ce qu'on entend, c'est sans doute la scène la plus célèbre de La Porte du Paradis, le second chef-d'œuvre de Michael Cimino, le film qui précipita sa chute, puisqu'on l'a rendu responsable avec le quadruplement, je crois, de son budget initial, un tournage complètement dément et légendaire, et puis surtout son échec en salle, rendu responsable donc de la faillite de la United Artists. On le rend responsable aussi de ce fait de la fin du nouvel Hollywood, même si ce nouvel Hollywood était déjà bien fragilisé par le succès d'une Star Wars quelques années auparavant, et même des Dents de la Mer. On peut remonter à là, enfin bon, on va pas refaire l'histoire du cinéma américain des années 70, on en a bien assez avec Cimino, et avec cette Porte du Paradis, dont je le rappelle, la version intégrale n'a été enfin vue et disponible qu'il y a 8 ans, en 2012. Alors là encore, un film inépuisable dans lequel on pourrait rentrer, je pense, par cette séquence de balles en pâte matin à roulettes sous cette lumière zénitale avec le plafond transparent de la salle de bal qui s'appelle Heaven's Gate, en rappelant que c'est le directeur de la photographie Vilmos Zsigmond qui a fait ce travail assez incroyable. Quel rôle de ces scènes de danse chez Cimino? Est-ce que c'est le même rôle que chez Ford, montrer une communauté rassemblée ou plutôt montrer la culture populaire, Cédric Donat?
Oui, en effet, Cimino a plusieurs fois fait référence à Ford, pour qui les trois plus beaux objets à placer devant une caméra, c'était effectivement des scènes de danse, des montagnes et des chevaux au galop. Donc on a effectivement tout ça dans son cinéma. Et je pense qu'effectivement, les deux pistes sont également intéressantes, mais clairement, il y a chez lui cette volonté de rendre hommage à la vitalité de la culture populaire. La danse exprime tout à fait cette idée que le peuple a des choses à montrer, que c'est dans les bas-fonds de Buenos Aires, de la Nouvelle-Orléans, que se sont élaborés de nouveaux genres musicaux. Et dans cet extrait qu'on vient d'entendre de Heaven's Gate, effectivement, donc l'extrait se déroule dimanche. Et dans le film, c'est important, ça, le fait que les jours sont clairement identifiés. Le drame s'annonce. Puisque on sait qu'effectivement les grands propriétaires ont établi une liste de condamnés, mais Jim Avril, donc Christopherson, a différé en fait le dévoilement de cette liste, et comme il l'a expliqué juste avant en fait cette scène de bal à son ami John Bridges, donc on retrouve le Lightfoot de son premier film, et bien donc il lui expliquait qu'il fallait laisser au petit peuple de Sweetwater, il fallait leur laisser leur dimanche, il fallait qu'ils profitent de ce dimanche. C'est David Mansfield qui s'est occupé des arrangements musicaux, c'est lui qui dans la scène également est au violon, fait le premier tour de piste. Alors cette scène, est, bien entendu, elle est en écho avec le prologue du film, quand les étudiants de Harvard dansaient.
Et avec la scène du massacre ensuite.
Et avec la scène du massacre.
La figure du cercle concentrique qui est la figure principale de ce film.
Voilà, tout à fait. Alors là, effectivement, les gens dansent autour d'un grand poêle qui s'est substitué à l'arbre de la grande cour de l'université. Et donc on n'a plus affaire à une valse, puisque c'était sur Strauss, que les étudiants de Harvard dansaient, donc une musique, on va dire, plutôt aristocratique. Là, au contraire, c'est toute la vitalité, justement, de la culture populaire, puisque les arrangements musicaux, en fait, mélangent à la fois des rythmes slaves, mais aussi le folklore un peu cajun. Donc, c'est ce que veut montrer Cimino, c'est cette... Là, on est encore à un moment où on peut penser que l'histoire est en train de se faire. Bien entendu, il y a cette menace qui est là, et on sait que très tôt, Cimino annonce effectivement la perte, et on sait que ça va mal finir. Mais c'est encore dimanche, les gens peuvent encore profiter de cette idée que voilà, tout est encore possible. C'est tout à fait ce qu'illustre cette scène.
Captain, why did you call me? What do you want?
I'll tell you what I want. I want the rice to boil over in Chinatown. I want to change things.
Why? Is Chinatown so bad the way it is?
It stinks. The Harry Young's got this place locked up like a jail. You got a slave population of sweatshop women working for 12 cents a piece. You got shopkeepers paying bribes to every punk that comes along. You got 30 people living in a room. You got the highest rate of TB and mental illness in any city neighborhood. You got a male population.
Look, I'm a reporter. I am not a crusader.
You're an actress. I can help you.
How?
I'll give you hard facts off the record. You do one of those exposés on Chinatown. One week you do the gambling connection. The next week you do the youth gang extortion racket. Move up the ladder. The bosses that own the places. You splash their faces on the tube. Take a little journalistic license, you know what I mean. Each week, we peel another layer off the onion. I mean, if it was some white broad, they'd say it's racist. But with you, they gotta figure it's on the up and up.
This is outrageous. There are boundaries, Captain White, ethics. The press is independent. It's not just another undercover cop. What you're asking for is absurd. It's almost criminal.
You wouldn't know a real criminal if one popped out of the toilet and spit you on the ass.
I don't think there's any point in going on.
Sit down, you get smart, you listen to me.
Nous sommes dans un restaurant à Chinatown, affrontement, séduction entre un flic qui vient d'avoir la responsabilité du secteur et une journaliste à qui il expose son plan pour nettoyer Chinatown et demande son aide en échange de tuyaux. Il lui dit, si vous étiez blanche, on dirait que c'est du racisme, mais avec vous, ça passera, oui, parce que la journaliste est d'origine chinoise. Alors, le racisme, voilà encore un épithète dont on a affublé Michael Cimino, je le cité tout à l'heure en introduction, pour ce film qui lui permet de se remettre en selle en 1985, hein, produit par Dino De Laurentiis. Et alors, la communauté sino-américaine notamment a été furieuse contre le film, sans doute parce que Cimino va à l'encontre d'un mythe dans ce film. Mythe, vous le racontez dans votre livre, Cédric Donna, qui a été forgé par les think tanks des néo-conservateurs pour mieux accabler une autre communauté, la communauté afro-américaine. Et ce mythe, c'est celle de la minorité modèle qui était censée constituer les Américains d'origine asiatique. Mais au-delà de ce sujet ou d'un thriller sur la mafia chinoise à New York, un film de guerre en temps de paix, comme l'appelait Cimino, c'est pour vous, Cédric Donna, surtout un film sur la disparition de la classe ouvrière, ou en tout cas son atomisation, et sur ce nouveau capitalisme qui émerge à ce moment-là.
Alors, à propos du justement de la dimension raciste du flic, en fait, hein, Serge Danet dans Libération écrivait que avec ce personnage de Stanley White, en fait, on avait un nouveau modèle en fait de flic dans le cinéma, c'est-à-dire en fait du flic raciste qui se sait raciste.
Conscient de l'être.
Qui est conscient de l'être, tout à fait. Mais malgré tout, cet extrait montre quand même que Cimino a réussi à construire un personnage plus complexe, avec une mise en perspective un peu de son propre racisme. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, il rencontre cette journaliste dans ce restaurant et il a emmené tous ses livres d'histoire avec lui. Et il nous propose en fait un petit cours d'histoire sur l'immigration chinoise et comment elle a été traitée.
Quel était le sujet au départ que voulait faire Cimino? Il avait ce projet de raconter l'immigration chinoise, comment ils ont construit les chemins de fer notamment. Et voilà, il en reste des traces dans ce film.
Complètement, complètement, parce qu'effectivement, c'est en grande partie un film de compromis, hein, L'Aigle du Dragon. Ce n'est pas le film que Cimino aurait souhaité faire. Comme vous l'avez dit, il fallait qu'il retrouve les chemins du studio. 5 ans s'écoulent après Heaven's Gate. Et donc, effectivement, le film emporte les traces, y compris d'un point de vue formel. Hein. Par exemple, la question de la langue, si on s'intéresse à cette question-là, ben on voit qu'effectivement les personnages chinois en fait parlent de temps en temps anglais. C'est simplement en fait pour soulager le spectateur en fait de la lecture des sous-titres. Ça correspond absolument pas à un point de vue esthétique ou une quelconque. C'est purement effectivement un arrangement, hein, trouvé avec la production.
Il y a quelque chose.
Fernando Ganzo.
Il y a quelque chose aussi d'intéressant dans l'extrait qu'on vient d'entendre, qui est la violence brutale qui arrive et qui dans le film surprend, parce que dans le restaurant, les deux personnages discutent, il y a une fusillade horrible qui arrive et qui fait inévitablement penser, je crois, et en plus à l'époque, au cinéma de Sam Peckinpah, et qui avec qui par ailleurs il aimait bien se mettre à un niveau un peu plus élevé, non?
Il y a un moment, pendant le désastre du tournage de La Porte du Paradis, on a envisagé de remplacer Cimino par Peckinpah.
Oui, c'est un peu proche. Il y a des anecdotes un peu rigolotes sur la présence de Peckinpah sur les tournages, mais qui, pour moi, au-delà de la violence et du rapport que les deux avaient à John Ford et à Kurosawa, et il y a l'idée d'un romantisme dans les deux cinéastes par rapport à l'histoire américaine qui est très très fort. Or, ce qui est pour moi singulier dans le romantisme un peu mélancolique des Cimino, c'est qu'à différence de celui de, par exemple, Peckinpah, qui est individuel, celui de Billy the Kid, n'oublions pas que Lightfoot se fait traiter de Billy the Kid dans son premier film, est une mélancolie collective et historique. C'est-à-dire, c'est un des rares films où, par exemple, effectivement, comme vous disiez, Antoine, on peut évoquer les sentiments d'un reste historique de la migration chinoise qui serait enterré sous les chemins de fer américains. Donc ce sentiment presque d'un personnage collectif qui fait que politiquement il est tout aussi douteux que par exemple Peckinpah et tant d'autres, mais qui inévitablement à un moment donné lui a fait fait qu'il est traité de marxiste. Et cependant, c'est pour moi une des choses très singulières de son écriture et dans le rapport où ses récits ont à la construction d'un récit américain.
At my age, Alexander the Great had conquered half the world. They called him Fire from Heaven.
Alexander. He wasn't a Sicilian like you or me. There's no fire in our heaven to fall.
I am Salvatore Giuliano. You are both in my debt. No.
It's a miracle. Please, let me kill him.
No! Let us respect him. We don't kill the police. At least not deliberately. Who says there is no fire from heaven in Sicily?
C'est sans doute, même pour les plus acharnés de ses défenseurs, le film le plus unanimement décrié de Michael Cimino, Le Sicilien, en 1987. Un film qui est victime, il faut le dire. Et puis d'ailleurs, Cimino était le premier à le reconnaître, victime d'une monumentale erreur de casting, avec le choix de Christopher Lambert, dans le générique, dans le rôle de Salvatore Giuliano. On l'a entendu se présenter dans l'extrait, Salvatore Giuliano, le très légendaire, pour ne pas dire mythique, bandit sicilien qui avait inspiré, son œuvre magnifique, manifeste à Francesco Rosi. Or, Cédric Donat, très étonnant, dans votre livre, vous défendez ardemment ce film, notamment, et alors que c'était entre autres ce qui lui avait été reproché, parce que Cimino, au contraire de Rosi, va travailler à mythifier le personnage, à en faire une sorte de super-héros, de Christ rédempteur, une forme d'espoir, je vous cite, qu'on assassine sur fond de drapeau américain. Cédric Donat.
En effet, je pense que c'est clairement ce que cherchait à montrer Cimino. Ce qui intéresse Cimino, c'est pas tellement l'histoire de la Sicile ou celle de Giuliano. Quand le film est sorti, beaucoup de critiques sont venus le trouver pour lui dire « Ah ben enfin, vous vous intéressez à vos racines hein. ». En réalité, Cimino ne s'est pas spécialement intéressé à l'Italie. Lui-même, d'ailleurs, estimait qu'il était beaucoup plus proche de la culture russe, était beaucoup plus de familiarité avec la littérature russe, notamment qu'avec toute forme de culture qu'on pourrait identifier comme italienne. Mais effectivement, ce personnage de Giuliano, il l'intéresse parce que il voulait devenir américain. C'était pas seulement un bandit.
Il voulait même que toute la Sicile devienne américaine. Il voulait rattacher la Sicile comme un nouvel État des États-Unis.
Oui. Alors effectivement, ça paraît un peu surréaliste, mais il y a eu dans l'immédiate après-guerre un éphémère courant, effectivement, qui prenait cette solution. Et Giuliano s'est retrouvé mêlé à tout ça. En réalité, donc Cimino transfigure complètement l'histoire. Vous rappeliez en début d'émission le passage de son livre où il explique qu'après tel ou tel film, on l'a affublé d'un certain nombre de tares. Et après Le Sicilien, on l'a accusé d'être révisionniste. Objectivement, le film, oui, d'un point de vue historique, le film est révisionniste. Le film donne de ce bandit une image qui n'a absolument rien à voir avec la réalité historique. Mais lui, il l'utilise effectivement comme l'image vivante d'un rêve. Et effectivement, le film se termine avec l'assassinat de Giuliano sur un voilier qui est encore dans les eaux territoriales de Sicile, mais qui normalement devait l'exfiltrer aux États-Unis. Donc c'est une adaptation, bien sûr, du roman de Puzo. Alors la difficulté,
l'auteur du parrain,
et la difficulté qu'a eu Cimino et qui affaiblit quand même, il faut le reconnaître, le film, c'est que il n'a pas pu utiliser les personnages du parrain pour des causes de tout simplement de droits d'auteur. Or, le livre de Puzo en fait est une parenthèse en fait dans Le Parrain, c'est-à-dire que l'histoire le Salvatore Giuliano écrit par Puzo se situe en fait dans la parenthèse ouverte par le départ de Michael Corleone qui fuit New York après le meurtre du policier et qui va en Sicile exfiltrer Giuliano. C'est ce que raconte le roman de Puzo. Cimino n'a pas pu utiliser cela. Et effectivement, comme vous le disiez, il a profondément regretté l'emploi de Lambert pour le rôle.
Alors, ce qui intéresse toujours Cimino, c'est la géographie des lieux. On sait que quand on lui a proposé d'adapter, de tourner un film sur Che Guevara, que Terrence Malick ne devait faire puis ne pouvait plus faire, ce qui l'intéressait, c'était la géographie de l'île. C'est-à-dire, il expliquait toute la révolution cubaine par la topographie même du lieu. Et c'est ce qui l'intéresse aussi, manifestement, en Sicile, même s'il va reconstituer une Sicile en tournant dans une soixantaine de lieux différents. Mais ce qui l'intéresse, c'est le fait qu'en Sicile, le centre soit à la périphérie, c'est-à-dire que la richesse de l'île soit sur les bords de mer et qu'à l'intérieur, il n'y ait que des chèvres. Et ça, c'est quelque chose qui passionne toujours Cimino, c'est le lieu. Pour lui, c'est le décor n'est pas un décor, il génère presque le film.
Oui, en effet, effectivement, il défend cette idée que le lieu est en soi porteur de sens. Et que le cinéma doit révéler effectivement cette signification. Et effectivement, dans ce film, il donne une image de la Sicile qui correspond davantage à un modèle d'organisation géographique. Parce que effectivement, tout le propos du film en fait vise à expliquer finalement les causes aussi de la migration. Il y a cette scène du massacre en fait lors du 1er mai 47 où effectivement Giuliano se fait objectivement le porte-flingue en fait des puissants. Alors dans le film de Cimino, de fait le personnage c'est très édulcoré, hein, il est exempté de la plupart des responsabilités, mais malgré tout, Giuliano effectivement, si on revient sur l'histoire, il a eu aussi ce rôle-là. C'était pas seulement un Robin des Bois, c'était aussi un terroriste qui a été employé vraisemblablement par les services américains pour subvertir le mouvement social. Et cette scène, en fait, montre tout simplement que finalement les pauvres du monde entier sont chassés de chez eux. Et finalement, l'Amérique va effectivement apparaître comme un réceptacle possible pour ses espoirs, sauf que les espoirs sont assassinés à la fin du film.
Et que quand on voit les portes du paradis, la porte du paradis, pardon, on sait que ça va pas mieux se passer là-bas.
Cancer. Excuse me? You are definitely a Leo, Cancer rising. Leos look for what they can get out of life. At war with your home-loving other self. Leo should wear rubies. They bring serenity of mind. I'm a Sagittarius, the sign of philosophy, higher learning and broad concepts. I wear turquoise.
The doc's got a magic charm too. That ring, that fly little silver one. Yeah, you'd rather die than give it up.
You know, normally silver relieves stress and enhances emotional balance. Though perhaps in your case, silver caused some toxic reaction.
Your state of mind is fucked up, man.
There is nothing as important as DNA. It carries within its structure the hereditary information that determines the structure of proteins. The only substance that directs cells to grow and divide are encoded by it. DNA, deoxyribonucleic acid. It is the essential constituent of life. Watson and Crick, The Double Helix, 1953.
All healing comes from the divine within. Absolute faith makes fear and worry an impossibility. Edgar Cayce, 1943.
You seem the rain to never let up. I try to keep my head up and still keep from getting wet up. You know what's funny? When it rains, it pours. They got money for walls but can't feed the poor. Tupac, 1994.
Vous écoutez France Culture, plan large sur Michael Cimino avec Cédric Donna et Fernando Ganzo. Et dernier film à notre programme, dernier film tout court pour Cimino, si on oublie l'assez calamiteux court-métrage qu'il avait donné à Gilles Jacob pour son film collectif canois Chacun son cinéma. C'est donc Sun Chaser en 1996. Trois générations d'acteurs qu'on vient d'entendre et trois générations de personnages aussi dans cet extrait. Anne Bancroft, oui c'était elle, en vieille hippie adepte de l'astrologie et des médecines douces. Woody Harrelson en médecin imbu de sa personne et très sûr de sa science. Et puis le jeune John Seda en adolescent échappé de prison et atteint d'un cancer qu'il espère soigner dans un lac magique de montagne en territoire navarro. Un ultime film en forme de road movie qui va renouer avec le geste inaugural du Canard d'Heure, mais qui surtout, il me semble, effleure le grand sujet manquant de la contre-histoire de l'Amérique peinte par Cimino, c'est le génocide des Indiens. Dans une interview de Michael Cimino qui était paru en 2013 dans SoFilm, Fernando Ganzo, le cinéaste déclaré au producteur Vincent Maraval, réconcilier l'Amérique avec le génocide des Indiens, c'est natif, c'est l'un des sujets les plus importants, ça a toujours été ce en quoi je crois, ce pays ne deviendra jamais lui-même ou ce qu'il est supposé être si cette réconciliation n'a pas lieu. Et de fait, dans ce même numéro de SoFilm, Vincent Maraval, qui avait essayé de monter plusieurs projets de films avec Michael Cimino, vous avez parlé, Fernando Ganzo, de son projet Sioux, c'est-à-dire un film fresque qui raconterait l'histoire de l'Amérique, mais du point de vue des Native Americans, comme on les appelle là-bas, des Indiens, et donc entièrement dans leur langue, avec les facilités de financement qu'on imagine, Fernando.
On imagine, oui. C'est étonnant parce que ça fait écho au projet qu'il aurait pu avoir à un moment donné pour l'année du dragon aussi, qui aurait été faire ça, mais avec la communauté chinoise. Et ce qui est marrant, c'est que Maraval, il dit que dans sa tête, c'était un projet qui aurait pu monter Mel Gibson, pardon. Parce qu'évidemment, lui, d'une façon étrange, s'est débrouillé pour sortir des films dans des langues un peu inhabituelles. Mais ce qui est intéressant aussi dans le rapport au passé américain, c'est qu'il y avait aussi un autre projet jamais réalisé par Cimino, que je trouve très beau. On parle beaucoup de la condition humaine et on oublie qu'il avait beaucoup, beaucoup, comme celui sur le Sioux, et qui était un projet de deux femmes copines, assez proches, très superficielles, qui adorent s'acheter des freins. On retrouve cette idée de la structure du récit parce qu'il y a une heure de film dans laquelle rien se passe à part ces deux filles très superficielles qui couchent pour pouvoir s'offrir des cadeaux et tout. Et à la moitié du film, il y a un meurtre. L'une des deux s'est fait tuer par un des hommes avec qui elle couche. Et la survivante doit revenir au Texas, je crois, à retrouver son oncle qui est Christopher Walken, qui est déjà un plus vieux acteur. Et il voulait que cette femme soit jouée par Taylor Swift, à une époque où il n'était pas encore la star qu'il était. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'à la moitié du film, il brisait la chose pour revenir à quelque chose qui était déjà de l'ordre du passé, de l'ordre d'une génération. Et ça aussi, c'est intéressant, je trouve, cette idée des reconstructions qu'il a aussi dans l'espace géographique, comme il construit, on a déjà évoqué, par rapport aux acteurs. Par exemple, l'acteur qui joue dans Sun Chaser, on voit qu'il n'est pas aussi jeune que le personnage qu'il doit jouer. On a beaucoup reproché Mickey Rourke dans L'année du dragon, quel âge il joue, on ne sait pas. Et même Christophe Lambert, je pense qu'il continue cette espèce d'idée qui est déjà présente chez Walken, de l'acteur avec une matière presque plastique du visage. C'est pas étonnant que Mickey Rourke, c'est un acteur qui est cherché après à reconstruire lui aussi son visage. Donc même
comme
les visages,
Michael Cimino.
Comme Michael Cimino lui-même, exactement. Donc même les visages de l'acteur est aussi quelque chose qui a un rapport très compliqué au temps et qui est lié à cette idée de reconstruction.
Cédric Donna, c'est vrai que on aurait pu faire dans cette émission ce qu'on avait fait avec Eisenstein il y a quelque temps, une émission sur les films fantômes de Cimino. On raconte que dans sa maison à Los Angeles, il y avait une pièce entière consacrée à, je sais pas, 46 scénarios qu'il avait écrits et non tournés. Ce qui est très passionnant dans ses projets, il y a effectivement un projet sur le Tour de France aussi avec Dustin Hoffman, La condition humaine de Malraux. Il paraît que son scénario est magnifique. On rêve de le voir un jour édité. Même si pendant 20 ans il n'a pas tourné, hein, de 96 à sa mort en 2016, Cimino a toujours pensé en cinéaste, il est resté cinéaste jusqu'au bout.
Oui, en effet, même en 2015, il était à Locarno, je crois que c'est sa dernière apparition, il mentionnait encore la possibilité d'adopter Malraux. Ça l'a hanté, hein, les 30 dernières années de sa vie, ce roman. Il y a un excellent livre de Jean-Louis Janel là-dessus, hein, sur les scénarios avortés de la condition humaine. Et pour faire le lien justement avec l'extrait et son dernier film, Sunchaser, je pense que là, effectivement, on est au bout du voyage. C'est-à-dire que Cimino pose sa caméra pour la première fois en Californie. Donc il est arrivé au bout du continent et au bout de l'histoire, en fait, qu'il avait à nous raconter. Je pense que c'est un film qui, moi, que je regarde toujours un peu gorge serrée, parce que, en fait, c'est un film qui nous en dit beaucoup sur les rêves que Cimino n'a pas pu conduire. Et surtout ses projets, justement, vous mentionnez tous les scénarios dont il a peuplé sa maison. Donc on a en fait dans ce film de très nombreuses allusions au film précédent. Il y a cette scène effectivement à Monument Valley, donc il avait dit qu'il n'irait pas, et effectivement donc il a fini par poser sa caméra et par faire parler effectivement des Indiens dans une langue autochtone. Bon, sauf que ça dure 30 secondes parce qu'effectivement c'est pas possible, il n'y a plus les moyens de le faire. Donc c'est un film, je trouve, dont la fréquentation est un peu douloureuse malgré tout. Et peut-être qu'une des clés justement de ce film, quand on lit ce que Cimino a pu en dire, c'est quand il explique que pour une fois, en fait, il a fait un film qui n'a pas causé de polémique. Et je pense pas que ce soit vraiment, effectivement, une bonne chose. Et il reprend, en fait, exactement mot pour mot, les propos que tenait Malraux quand il a dû jeter l'éponge après s'être associé avec Eisenstein pour adapter son propre roman, et qui s'est heurté, en fait, à l'intransigeance des producteurs soviétiques. Et Malraux, donc, expliquait qu'il a préféré abandonner parce que ce que voulaient les producteurs soviétiques, c'était, et je cite Malraux, c'était un massacre plein d'espoir et d'optimisme. Or, quand Cimino présente son dernier film à Cannes en mai 96, et il reprend exactement ces mots-là en disant « Je voulais faire pour une fois un film plein d'espoir et d'optimisme. »
What a difference a day makes, 24 little hours, from the sun and the flowers, where there used to be rain. My yesterday was blue, dear, today I'm a part of you, dear, my lonely nights are through, dear, since you said you were mine. What a difference a day makes. There's a rainbow before me. Skies above can be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss, it's heaven when you find romance on your menu. What a difference a day makes. And the difference is you.
Merci Cédric Donat. On se quitte sur la version pleine d'espoir et d'optimisme, pour le coup, de What a Difference a Day Makes par Esther Phillips, qui sert de générique de fin à Sunchaser et donc de club de fin pour la courte mais extraordinaire filmographie de Michael Cimino. Votre livre, Le cinéma de Michael Cimino, L'Amérique, un rêve évanoui, est publié chez Classique Garnier, à confronter bien entendu avec la monographie sous forme de road movie de l'ami Jean-Baptiste Toré. Michael Cimino, Les voies perdues de l'Amérique, édité par Flammarion en 2013, est toujours disponible. Et puis le livre aussi de Florence Arrier et Alain Corcos, Filmer la légende, comment l'Amérique se raconte sur grand écran aux prairies ordinaires. Pour revoir les films de Michael Cimino, il en existe heureusement de très belles éditions restaurées en Blu-ray. Voyage au bout de l'enfer vient de sortir, c'était début janvier, chez Studio Canal. La porte du paradis en version longue, Director's Cut, c'est chez Carlotta Film, tout comme L'année du dragon en coffret ultra collector. Je vous renvoie aussi à l'émission que nous avions consacrée à Vilmos Zsigmond, l'immense directeur de la photographie, entre autres de Voyage au bout de l'enfer et de La porte du paradis. C'était le 12 novembre 2016 avec Pierre Filmon. Et en parlant de directeur de la photo, Vittorio Storaro, que nous avions également reçu dans Plan Large, sera à l'honneur la semaine prochaine, du 10 au 15 mars, au Festival de Valenciennes, en sa présence, avec son exposition Écrire avec la lumière, qui compare certains de ses photogrammes avec les tableaux qui l'ont inspiré, du caravane Caravage à Magritte, en passant par Botticelli, Rousseau, Bacon et autres. Une exposition qui était jusqu'à présent totalement inédite en France, et donc à ne pas rater. Il y aura aussi une masterclass et la projection de quelques-uns des films qu'il a éclairés, comme Apocalypse Now ou Le Conformiste, excusez du peu. Ceci annoncé, il est temps de rejoindre un palace de luxe pour la relecture moderne d'un mythe des plus anciens.
I can't tell you how completely happy I am to have you here tonight. You're both so perfect, so good looking, so sweet. Oh, I know I shouldn't say such things, but I just can't, I can't behave like everybody else. When I think something, I have to say it. I know I'm too forward, too open. What was it that poor old Archduke used to say? Ah, yes. Elizabeth, you are an innocent. How true. But then there were those other people, those terrible, vulgar people, who didn't trust me as I trusted them. But you're not like them. I know we're going to be good friends, the three of us. Oh, well, anyway, as long as we're stranded here together in this sinister, deserted caravanserai, I can't tell you how much I despise this sort of place, especially in winter when there's no one. I just fled from exactly... Oh, here we have our pretty Ilona. Come. Let me introduce you to my new friends, Mr. and Mrs. Chilton. Mademoiselle Ilona Hoxie, my secretary. Would Mademoiselle Ilona care for a drink?
No, thank you. I'm not thirsty.
Don't sulk. There's no reason for it. Not one.
Même en anglais, vous aurez sans doute reconnu cette voix inimitable, celle de la plus grande des comédiennes de France, peut-être du monde entier, comme l'écrivait Marguerite Duras, dans le rôle de la comtesse Bathory dans ce très curieux film érotico-horrifique d'Harry Kummel, Les Lèvres Rouges, en 1971, film qui ressort mercredi prochain en copie restaurée. C'était bien entendu Delphine Seyrig, la femme sans nom de l'année dernière à Marianne Bad, la Fabienne Tabar de Baiser Volé, sa fameuse réplique « Je ne suis pas une apparition, je suis une femme », la fée des Lilas de Podane et la ménagère prostituée et homicide de Jeanne Dillman, 23 quai du commerce 1080 Bruxelles, mais encore et aussi la réalisatrice 40 ans avant le mouvement MeToo de Sois belle et tais-toi, ou quantité d'actrices dont Shirley MacLaine et Jane Fonda dénonçaient déjà devant sa caméra les déviances du star system. Delphine Seyrig, 30 ans après sa mort prématurée, revient ces jours-ci dans l'actualité du cinéma, outre le film d'Harry Kummel, celui de Babette Mangold, Calamity Jane et Delphine Seyrig Story sera projeté en séance spéciale au cinéma du Réel le 18 mars. Le jour même commencera à Nantes une rétrospective Delphine Seyrig, ça sera au cinématographe. India Song de Marguerite Duras ressortira lui le 15 avril en salle en version restaurée. Et puis enfin, on peut voir sur Arte plus 7 jusqu'au 2 mai le formidable documentaire de Callisto McNulty, Delphine et Carole insoumuses, sur l'amitié créative et féministe entre l'actrice et la réalisatrice Carole Roussopoulos. Mais surtout, surtout, Delphine Seyrig est à l'honneur du nouveau Sofilm dans un article portrait que vous co-signez avec Gabriela Trujillo, Fernando Ganzo, la Française insoumise.
Oui, oui, oui. Ce qui est étonnant dans l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est d'imaginer que quand elle joue ce rôle d'une comtesse dans un film un peu d'exploitation, mais c'est très beau, Les Lèvres Rouges, c'est que c'est presque à quelques semaines près du tournage de Podane, de Jacques Demy, ce qui prouve qu'en 70, elle est déjà une actrice totalement unique, une actrice qui s'est toujours sentie plus à l'aise avec les rôles qui ne lui ressemblent pas, car elle étant naturellement extrovertie, débordante, ce sont finalement les personnages qu'elle décrit comme des coquilles vides qu'elle préfère jouer. Et c'est déjà étonnant de savoir que c'est une des rares actrices françaises formées chez Lee Strasberg.
Et à l'Actor Studio, oui.
À l'Actor Studio. Et qui retrouve très vite, grâce à Alain René, aussi une façon de se construire par les accessoires, les tenues, les coiffures, qui déterminent sa façon de bouger, de parler. C'est quelque chose qui nous semble très clair si on fait l'opposition de, ou la suite, l'année dernière à Marianne Bad, puis Muriel ou le temps d'un retour, où elle se réinvente détail à détail, comme elle dit, et qui lui procure ses premiers prix, importants aussi. Donc, à ce moment-là, en 63, cette femme a pris une enfance libanaise, une jeunesse très nuit de bohème à New York, devient une star du cinéma français. Mais il faudra un peu de temps pour qu'entre elle et ses tournages, entre ses convictions intimes et son travail se cristallise quelque chose. Et c'est en 75, année qu'elle signale très claire comme celle où les femmes cinéastes arrivent vraiment au cinéma français, dont Agnès Varda, je cite, fut l'une des sentinelles avancées. Et c'est l'année où elle va jouer trois rôles extrêmement importants. Donc, une peintre aliénée, donc Aloïse, de la récemment disparue Liliane de Kermadec, la veuve qui arrondit ses fins de mois en faisant des passes chez elle, et chez Jean Dielman, 23 rue du Commerce, 1080, Bruxelles, et l'évanescente Anne-Marie Streeter dans Une diacente de Duras. Et au-delà du sentiment de complicité qu'elle peut découvrir en étant dirigée par des femmes, ce fut un tournant, dira-t-elle, jusqu'aux années 60, l'éruption des mœurs moins liées aux tabous d'autrefois, l'éruption d'une prétendue libération sexuelle accordée à certaines transformations vestimentaires ressemblait plus à la représentation des fantasmes masculins qu'à l'accès des femmes à l'indépendance. Et là, pour la première fois dans sa carrière d'actrice, le but de Séric n'est plus de plaire, mais de communiquer. Ce qui est important, dit-elle, c'est qu'en me voyant, les femmes s'identifient à moi. Et en jouant dans les films d'Ackerman, de Duras, elle se rend compte aussi que le cinéma peut être construit autrement, qu'on peut créer des formes nouvelles et que les femmes peuvent en faire ce qu'elles veulent. Et elle va aussi le faire, surtout après la rencontre avec la vidéaste pionnière Carole Roussopoulos, avec qui elle fonde les collectifs des Insoumises. Et en 76, quand elle dirige effectivement ce film « Sois belle et tais-toi », qui fait presque un pont entre deux âges du féminisme, et où on voit Jane Fonda qui est très important, parce que avec Fonda, elle avait vécu une expérience douloureuse dans Maison de poupée de Lozé, une de ses pièces préférées de Séric, où elles avaient vu comment l'intérêt du projet leur échappe des mains sans qu'elles ne puissent rien faire. Et depuis, elle commence à avoir petit à petit une réputation d'émerdeuse, sinon être carrément blacklistée. Elle prend conscience aussi qu'elle arrive à un âge où les femmes, et surtout les actrices, deviennent invisibles, et vit très mal aussi le refus de ses films avec Ulrike Oettinger, une réalisatrice du nouveau cinéma allemand, notamment le tournant Dorian Gray dans le miroir de la presse à sensation. Sur cela, il dira... Il n'y a eu aucune évolution. Son film, personne n'en veut en France. Si c'est Schröter ou Fassbinder, on l'accepte. Mais si c'est une femme qui s'aimait être formelle et à faire des belles images cinglantes, qui ne sont pas des images réalistes ou douces, ou qui ne racontent pas des histoires normalement, c'est plus difficilement accepté. Et effectivement, elle va disparaître petit à petit des écrans. Son dernier grand rôle, c'est Golden 80s, en 86.
Chantal Ackerman.
Et c'est Chantal Ackerman, justement, qui au moment de sa disparition en 90, elle dira cette phrase, elle dira, elle a traversé le monde en essayant de l'échanger. C'est quand même un beau programme pour une actrice.
La situation mérite attention. Mon enfant, on n'épouse jamais ses parents. Vous aimez votre père, je comprends. Quelles que soient vos raisons, quels que soient pour lui vos sentiments. Mon enfant, on n'épouse pas plus sa maman. On dit que traditionnellement, des questions de culture et de législature décidèrent dans leur temps qu'on ne mariait pas les filles avec leur papa.
Merci Fernando Ganzo. Le nouveau numéro de ce film avec Delphine Séric dedans, mais aussi Jackie Chan, des fans de la boum, et en couverture Sarah Giraudot dans le bureau des légendes. C'est en kiosque. Quant à Delphine Séric, encore elle fera l'objet d'un toute une vie sur notre antenne. Ça sera le 28 mars. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Bernard Laniel. L'émission était préparée comme toujours par Pascaline Bonnet et réalisée par Vivien Demeyer. La semaine prochaine, plan large sur Jean-Daniel Paulet, lui aussi objet d'une très riche actualité avec des rétrospectives intégrales en cinémathèque à Toulouse comme à Paris, la ressortie de 22 films en salle, l'édition de livres comme de DVD. Nous fêterons l'événement avec son complice, le cinéaste Jean-Paul Fargier, et la spécialiste de son œuvre, Vanessa Nikolašić. Et puis Mathieu Macheret, en fin d'émission, nous parlera de l'œuvre du grand Pedro Costa, hommagé au festival Cinéma du Réel. D'ici là, vos programmes continuent sur France Culture. Dans un instant, Toute une vie, présentée par Christine Bernard.
J'ai pour vous un chemin par mes soins tout tracé, mais de grâce, écoutez, j'ai tout manigancé.